France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, l'apéro ce soir, c'est avec Laurie Loeffer qui exerce la psychanalyse, qui dirige une unité de recherche et de formation à l'université Paris Cité. Elle pratique une psychanalyse qu'on dirait émancipatrice, un peu subversive. Bonjour et bienvenue, Laurie Loeffer.
Merci, bonjour à vous.
Enchantée.
Enchantée, Charline.
Vous êtes à l'heure, comme les patients doivent l'être chez le psy.
Et les psys parfois aussi.
Laurie Loeffer, j'ai pas de divan, j'ai une banquette.
Ça va m'aller très bien, je pense.
Et on est dans un bistrot.
Encore mieux.
Donc on va faire tellement de la psychologie de comptoir me concernant.
Très bien.
Vous n'êtes pas prête. Venez, suivez-moi. Asseyez-vous, on va en parler.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
En général, les psychanalystes répondent peu aux questions.
Oui, ça m'emmerderait, ça, je vous le dis.
Ben oui, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez toujours y aller. Mais...
Qu'est-ce qui m'a pris de vous inviter ?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez peut-être eu envie de commencer une tranche.
Oui, ben je me dis, j'ai invité quelqu'un qui exerce la psychanalyse. Est-ce que ça veut dire peut-être que je ne vais pas très très bien ?
Ou peut-être que vous allez bien et que vous avez envie de déplier quelques fils pour savoir pourquoi ça va bien.
On va déplier avec les auditeurices. On va déplier à plusieurs.
Allons-y,
c'est inédit, déplions. Ça, quand même. Hein. Laurie Loeffer. Tiens, qu'est-ce qui vous passe par la tête, là, maintenant ?
Là, maintenant, vous faites ce que le psychanalyste fait en général. C'est-à-dire, dites-moi ce qui vous vient, c'est
ouais,
ça ?
Ouais.
C'est le caractère assez intéressant et en même temps un peu fantasque de ma situation, là, mais très plaisant.
C'est fantasque de faire une interview ?
Ah non, pas de faire une interview, mais c'est-à-dire d'être dans un café, à devoir vous parler de mon métier.
Parler psychanalyse au comptoir, c'est ce qu'on va faire.
Hein. Eh bien, allons-y.
Laurie Loeffer, vous pratiquez la psychanalyse, pour autant vous n'êtes pas psychiatre, vous avez eu la flemme de faire des études ?
Alors... Très bien. Donc, juste pour rappeler deux, trois petits éléments de la formation des psychanalystes et des psychiatres. Oui. La psychiatrie, c'est une formation de médecin. Et moi, je ne suis pas médecin psychiatre, je suis psychologue clinicienne. Et la psychologie clinique, c'est une autre formation universitaire et psychanalyste. C'est-à-dire que j'ai été analysée, donc j'ai pratiqué l'analyse sur un divan d'abord. Et ensuite, j'ai été formée à la psychanalyse.
Et vous dirigez une unité de recherche et de formation à l'université Paris Cité.
Absolument. Voilà. Absolument.
Alors, actuellement, on entend toute une série de témoignages de personnalités sur leurs souffrances psychiques. Est-ce que vous voyez déjà, vous, les effets ? Est-ce que des patients vous en parlent ?
Bon, comment dire ? C'est toujours un peu compliqué. Je crois que ça peut faire du bien. Dans le sens où ça ouvre un espace public sur la souffrance psychique, que ça peut déculpabiliser, ça peut avoir des effets comme ça. Et aussi, ça peut avoir des effets d'identification ou des effets de projection qui peuvent fixer certaines choses. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez parfois des personnes qui peuvent vous dire « Moi, j'ai lu ce livre, maintenant je sais ce que j'ai ou je sais comment je souffre ». Sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que chaque personne a sa propre histoire, sa singularité, et que même si une personnalité publique écrit un livre sur telle ou telle souffrance, ça reste la sienne. C'est pour ça que parfois c'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça s'analyse. C'est-à-dire que on peut aussi analyser le fait qu'une personne qui vient consulter s'identifie à une personnalité publique, donc c'est aussi, ça entre aussi dans le travail qu'on peut faire.
Et ça pose la question du diagnostic, est-ce que c'est vraiment un soulagement, un diagnostic, ou parfois il vaut mieux pas savoir ?
Les deux. C'est-à-dire que ça n'a pas les mêmes effets quand vous avez un médecin qui vous dit « vous êtes ceci », que si le patient dit lui-même « je pense que je suis cela ». Ça n'a pas le même effet. Parce que c'est la personne elle-même qui va s'approprier ce terme-là.
Même si ce n'est pas le bon.
Justement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qu'il va en faire ? Et alors quoi ? C'est-à-dire, parfois, vous avez des personnes qui disent « Moi, je suis... on m'a dit ou je suis cela. » Et après, je dis « Et ?»
Ah oui.
Et oui, c'est-à-dire que...
Oui, okay. Parfois, en toute une séance, vous dites juste « et ».
Ah oui, ça, tout à fait, ça m'arrive. Surtout quand il s'agit de ça. C'est-à-dire que quand la personne dit « voilà, je suis ceci », je ne veux pas dire des mots parce que... Voilà,
mais on va dire « je suis une courgette ».
Je suis une courgette, voilà. Alors ça, ça poserait d'autres problèmes en même temps. Ça poserait d'autres problèmes si quelqu'un me dit « je suis une courgette ». Disons que là, je pourrais commencer à me dire qu'un diagnostic serait nécessaire.
D'accord.
Mais bon, disons, je suis... Voilà. Eh bien, à ce moment-là, c'est nécessaire à un moment donné de se dire qu'on est une courgette. Mais est-ce que se dire qu'on est ceci peut empêcher d'être tout cela, quoi? Enfin, d'ouvrir un espace.
D'accord. Après, vous vous guidez pour ouvrir l'espace, quand même.
Exactement. En fait, c'est ça.
C'est-à-dire,
c'est vraiment un diagnostic. Ça devrait être non pas quelque chose qui ferme, un moment d'ouverture.
Okay. C'est pas un sacro-saint diagnostic, je dirais.
Et ce qui est tout à fait intéressant dans la sphère psy, alors je mets des trois petits points, mais c'est que en fait, il n'y a pas de stabilité véritable du diagnostic. On voit bien à quel point, tous les 3-4 ans, on a le manuel de diagnostic qui est nécessairement révisé, quoi. Ce qu'on appelle le DSM, c'est un manuel américain qui est fait aux États-Unis pour les psychiatres. On en est au 6e.
Ah, ça va plus vite qu'à l'Académie française.
Un peu plus vite. Peut-être qu'on pourrait les faire travailler ensemble, mais... Mais vous avez, par exemple, le 5e, il y avait répertorié 400 troubles psy. Et le dernier, là, il y en a 800.
Et donc, dans ce cas-là, on vient de parler du nombre de pathologies, c'est ça, qui peuvent exister. On
a parlé des troubles.
Des troubles, des personnalités, de la parole qui se libère, etc. À la fin de la chaîne, est-ce qu'il n'y aurait pas des big pharma qui verraient le coup venir et qui se frotteraient les mains?
C'est un gros sujet. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Christopher Lane qui a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle « Comment l'industrie pharmaceutique et la psychiatrie ont médicalisé nos émotions ». Donc c'est une façon de répondre. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il montre comment, par exemple, ce qu'on appelait la timidité au début du siècle, dans les 40 ou 50 premières années 2000, est devenue la phobie sociale. Ben, ça ne se traite pas de la même façon. Donc bien sûr que les big pharma sont plutôt assez attirés par tout ce qui pourrait s'appeler phobie ou tout ce qui pourrait justement relever d'un trouble pour ensuite proposer des traitements. Quand je dis ça, je ne suis pas encore une fois en train de balayer comme ça la question des médicaments, parce que c'est une vraie question quand même. Et il y a des patients qui ont besoin, à un moment donné, de passer par une médication. Ce que je ne fais pas moi, puisque je ne suis pas psychiatre.
C'était une blague au départ.
Oui, oui, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien les running gags, en fait.
s'entendre.
Et en fait, donc il y a la médication. Ça a été très important quand c'est apparu, parce que ça permettait de calmer des moments d'angoisse plutôt que de faire des électrochocs, par exemple. Même si, la sismothérapie revient dans les... Donc c'est quand même assez chaud, tout ça. Moi, je trouve. Mais il est évident qu'on ne cesse d'entendre que les Français sont des très grands consommateurs de psychotropes. Donc il y a évidemment un rapport économique à tout ça, quoi.
Si on buvait un coup, Laurie Lefebvre.
Allez, qu'est-ce que je bois le samedi soir? Une petite coupe de champagne.
Ah ouais, carrément. Vous avez bien raison. Bah oui. Mais bien sûr. Allez, champagne. Laurie Lefebvre. Tiens, il paraît que dans la cour de récré, on vous appelait quoi? Laurie Lefebvre à repasser.
Oui.
C'est nul. Il y avait Laurie Fer à cheval, Laurie Fer à cheveux.
Oui, alors c'est possible qu'il y ait eu ça aussi, mais je m'en souviens plus. Il y a des bons oublis.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, vous avez tâché d'oublier.
Ben, l'offert à repasser, je crois que ça m'avait fait marrer, en fait. C'est pour ça que j'ai retenu.
C'est pas foufou comme jeu de mots.
Non, c'est pas foufou, mais j'étais pas dans une école très folle.
Ah oui, vous étiez où?
J'étais dans le 14e arrondissement.
De Paris?
Oui, de Paris. Alors, j'étais...
Ah, vous avez tout oublié, là.
Bah, je ne sais pas, ça, je l'ai réservé à mon psychanalyste quand j'en avais...
D'accord. Bah, oui, c'est normal. Vous publiez « Les héroïnes de la modernité », le sous-titre « Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste ». L'idée de cet ouvrage vous est venue pendant un colloque en Tunisie. Genre, vous êtes fait engueuler par un vieux crouton parce que vous avez fait chanter des femmes pendant le colloque.
Exactement.
C'est ça l'idée? Alors expliquez-moi ce qui s'est passé et comment ça vous a donné une idée.
Ce qui s'est passé, c'est on est en 2015. C'est le moment vraiment des mouvements de soulèvement, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Mm-hmm. Et donc, je suis invitée dans un colloque qui, sur les femmes dans la culture. Et il y a beaucoup de femmes chercheuses tunisiennes et qui sont, pour certaines, très impliquées dans les mouvements de ce soulèvement, et donc avec des gardes du corps. Elles sont menacées, quoi. Vraiment, on est dans un moment un peu compliqué. Et donc, je fais une conférence que, à l'époque, j'avais nommée « Le rire des féministes ». Et j'avais donné, comme archive sonore, une très jolie version de l'hymne féministe. Mm-hmm. « Debout, les femmes », enfin, vous connaissez.
On peut vous la chanter,
nous
hein.
« Nous qui sommes sans passer, les femmes, voilà. » Et les femmes tunisiennes qui étaient là ne connaissaient pas cet hymne. Et elles ont demandé à le chanter. Donc j'ai remis l'archive sonore et elles se sont levées et chantées et ça a donné vraiment quelque chose de saisissant, quoi.
Vous déclenchez des révolutions en Tunisie, vous ?
Si seulement. Si seulement.
Oui. Ça a choqué vos confrères ?
Alors, on s'est levés, on a chanté, il y en a qui pleuraient, etc. Et il y avait des confrères qui n'étaient pas des consoeurs, donc. Et il y en a un, que je nommerai pas, et qui, à la fin, m'a attrapé comme ça, et qui m'a dit, de façon un peu condescendante, « Là, tu as fait de l'un. » Alors, je vous dis tout de suite, c'est une citation de Lacan.
On s'invective par Lacan interposé, alors, dans ce milieu.
Ce qui m'a intéressé, c'est l'effet que ça a eu sur moi. C'est-à-dire l'effet, en fait, d'inhibition, quoi.
Et en quoi ça développe une idée
et
pour
après,
un récit
quand je me suis un petit peu réinterrogée sur ce moment-là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que des termes savants, des arguments d'autorité peuvent avoir comme effet sur un élan, sur une certaine érotique de solidarité entre femmes, etc. Et je me suis dit, mais bien sûr. Je vais tirer ce fil-là. Et puis, bon, voilà, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs activités, mais c'est resté là. Un peu plus tard, il y a 3 ans, j'ai eu une commande d'un article pour les 50 ans des lois Veil sur l'avortement. Et j'ai découvert à cette occasion, dans mes recherches, une figure féministe dont je parle beaucoup dans le livre, qui s'appelle Madeleine Pelletier.
Ah, on va commencer à parler des mauvaises filles,
voilà.
C'est le sous-titre de votre...
Exactement, et qui a écrit en 1911 un texte absolument génial qui s'appelle « Le droit à l'avortement ». Et donc j'ai commencé à tricoter mes fils, et donc petit à petit, je me suis rappelé du fait que, ah oui, quand même, quand il y a des femmes qui veulent faire différemment, qui veulent sortir un peu des assignations, etc., il y a des discours qui les rattrapent, des discours savants. Elles passent dans la trieuse savante où on va les diagnostiquer parfois. Voilà. Ou bien on va leur dire...
Tu es ceci, tu es cela.
Et puis surtout, tu es une mauvaise fille. Et puis si tu...
Une dépravée, quoi.
Ouais, une dépravée. Voilà.
Enfin, et Madeleine Pelletier, vous expliquez qu'elle propose aussi des conseils éducatifs aux mères féministes,
oui,
qui sont quand même assez radicaux.
Radicaux. Mais c'est intéressant.
C'est coupe-toi les cheveux et porte des pantalons, quoi.
Coupe-toi les cheveux, porte des pantalons. Enfin, on est dans les années 20,
on peut,
quoi,
dire que c'est radical pour les années 20. Hein.
Non, mais,
pas aujourd'hui.
Non, mais vous imaginez, 1911, écrire un texte qui s'appelle « Le droit à l'avortement » en expliquant que si on donne le droit à l'avortement, ça préviendrait les infanticides. Et en 10 ans, il y a plein de jeunes femmes qui se retrouvent dans des conditions matérielles difficiles. C'est ça aussi la question matérialiste. Hein, qui ne peuvent pas garder cet enfant. Et donc, elles vont le tuer. Bon, 1911, c'est incroyable d'avant-gardisme, quoi. C'est,
ouais,
impressionnant, quand même.
Aujourd'hui, on se rend compte de ça. À l'époque, on dit « mais elle est folle ».
Exactement.
Aujourd'hui, on dit « avant-garde », aujourd'hui, on dit « elle est tarée ».
C'est pour ça que le sous-titre de votre livre, « Mauvaise fille et psychanalyse matérialiste
ouais, », ouais.
Ça veut dire quoi, que vous tenez compte du contexte ?
Eh bien voilà, alors ça, c'est exactement ça. Pour le dire différemment, c'est de prendre en compte aussi... L'exemple que je vous donne là, de Madeleine Pelletier, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle dit, mais en fait, les femmes ne sont pas toutes dans les mêmes conditions. Et Madeleine Pelletier, mais aussi Virginia Woolf, que je cite dans le livre, qui écrit en 1938 son livre « Les Trois Guinées », qui d'ailleurs a été qualifié de le livre féministe de Virginia Woolf, qui dit, voilà, les hommes vont à l'université depuis 600 ans, les femmes depuis 50. Mm-hmm. Le capital, les propriétés, les hommes les ont, les femmes ne peuvent l'acquérir que par mariage. Donc, en fait, toute cette matérialité, ça a aussi des effets subjectifs, ça a des effets sur les corps, ça a des effets sur, sur la vie psychique. Enfin, c'est pas la même chose, quoi.
Et ça, c'est un peu subversif dans votre domaine de considérer le contexte et de faire une psychanalyse matérialiste. Ça va pas dans la norme, ça.
Pas tant que ça. Pas tant que ça.
Vous êtes une mauvaise fille.
Oui, oui. Je suis une mauvaise fille. Et si on pouvait marquer sur ma tombe la psychanalyste Laurie Loffert, la mauvaise fille de la psychanalyse, pourquoi pas, quoi.
Vous l'avez dit, donc ce sera fait.
Voilà,
si vous...
voilà.
Après, vous avez encore le temps.
Oui,
hein, donc,
on verra. Mais
si non, vous changez d'avis, mais
c'est-à-dire que bon, je suis pas la seule hein, dans ce courant-là. Il y a des jeunes collègues, mais c'est pas tout à fait encore ouvert de ce côté-là, en tout cas. C'est-à-dire que on va s'intéresser à ce qu'on appelle la réalité psychique, quoi. Mais la réalité psychique n'est pas ce que, par exemple, Lacan appellerait le réel. Peu importe, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, mais
faire du tricot.
Du tricot. Mais exactement. Méfiez-vous, parce que vous voyez, mon tricot m'a amené à un endroit...
Mais oui, mais si vous cassez les codes un petit peu comme ça, est-ce que vous avez déjà pensé à remplacer le divan par un hamac, par exemple ?
Alors, pas encore. Pas
voilà
encore.
L'idée.
En fait, moi, ce qui m'intéresserait, alors, en même temps, là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais c'est que ce soit par exemple un patient qui arrive avec un hamac. Parce que moi,
vous,
je vais
il
pas...
nous écoute, vous allez être surprise.
Mais c'est pour ça. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu en séance, qui ne s'est pas assis sur le fauteuil et qui s'est assis à un coin de la pièce. Et j'allais pas lui dire non mais attendez, là c'est pas là qu'il faut s'asseoir, c'est là. Il faut aussi se laisser surprendre par ce que font les patients ou les personnes qui viennent. Ce qu'ils font de ce cadre-là.
Voilà. Mais alors justement, pourquoi est-ce que quand on parle de psychanalyse, c'est toujours les noms de Freud et Lacan qui reviennent ?
Comment dire ? C'est un champ théorique et pratique qui est très incarné, en fait. C'est incarné par Freud et c'est incarné par Lacan.
C'est comme s'il y avait deux dieux de la psychanalyse.
Mais il y en a encore qui sont très croyants. Hein.
Ouais. On peut pas blasphémer, quoi.
Ben, j'essaye un peu, mais c'est pas très bien pris par mes camarades.
Mauvaise fille.
Mauvaise fille.
Il y en a d'autres que vous citez. Pouvez-nous dresser rapidement le portrait de Nathalie Clifford Barnet, parce qu'elle dit une très jolie phrase que vous notez dans le livre, hein, « Les héroïnes de la modernité », c'en est une. « La vie la plus belle est celle qu'on passe à se créer soi-même, non à procréer. »
Nathalie Clifford Barnet, c'est une franco-américaine qui est venue s'installer en France au début du siècle, riche, et qui a pu tenir salon avec que des femmes. Elle ne faisait pas mystère du fait qu'elle aimait les femmes et qu'elle avait été appelée à l'époque l'Amazone du XXe siècle. Et donc, elle a eu une vie libre. Parce que, en fait, ça n'a l'air de rien de dire ça. C'est très compliqué, en fait. Et Nathalie Clifford Barnet, donc vraiment une figure d'Amazone. Amazone dans le sens...
Elle livrait pas des colis, hein, c'est
non.
L'Amazone...
Mais vous vous rendez compte, j'y ai même pas pensé. Je me dis, mais je voyais l'Amazone sur son cheval, et alors là, évidemment, vous me ramenez... Mais vous avez raison, vous me ramenez à une réalité.
Pardon, hein,
mais c'est vrai.
Pardon alors, de remettre l'église au milieu du village, mais c'est, aujourd'hui, c'est ça. Hein.
C'est vrai, elle ne livrait pas de colis. En revanche, elle nous a livré quand même quelques conseils.
Ah, voilà.
Quelques conseils de liberté.
Ouais. Mais elle était... considérée comme folle, quoi, parce que les médecins à l'époque.
Alors, ils, pas, quoi, ils, voilà. Alors elle, pas tellement.
Non, pas
enfin,
tellement.
C'est-à-dire. Bon, enfin,
folle, c'est un grand mot, mais.
Non, mais à l'époque, c'était à l'époque de Nathalie Clifford Barnett, donc, qui avait une relation avec une très connue courtisane de l'époque, qui s'appelle Liane de Pougy. Elle tenait salon rue Jacob, là, à Paris. Mm-hmm. Elle avait un jardin derrière, et elle faisait des soirées.
Des soirées unboxing, hein.
Des soirées. Un hommage à la poétesse Sappho. Enfin, on peut imaginer ça. Elle invitait tout le gratin de l'intelligentsia parisienne de cette époque. Elle était très connue pour ça. Et probablement parce qu'elle était un peu connue pour ça, on l'a un peu laissée tranquille du côté des diagnostics. En revanche, la condescendance des hommes de cette époque les considérait comme... Bon, c'était un petit peu la perversion de ces femmes... qui était un peu... elle défend un peu l'ordre social, mais pas tant que ça, en fait. Donc, il y avait une espèce de façon de les voir. Elles s'amusent, quoi.
Ouais.
Elles sont un peu, jeunes.
Mais ce sont donc des héroïnes de la modernité. C'est elles qui font avancer les choses, donc.
Oui.
Ouais. Mmh. Enfin, comme vous citez aussi Anne Sylvestre, avec ses chansons.
Oui.
Voilà.
Anne Sylvestre.
Ah bah oui.
Alors, la chanson « Non, non, tu n'as pas de nom ». On est juste à 2-3 années... des lois Veil, moi je l'écoute, ça me fait pleurer encore. Hein. Enfin, encore. À 72, j'étais petite.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous venez d'allumer le poste, vous tombez en pleine séance avec la psychanalyste Laurie Loffert. Vous publiez Les héroïnes de la modernité, mauvaise fille et psychanalyse matérialiste. C'est paru aux éditions La Découverte. Et vous dirigez aussi une unité de recherche et de formation à l'Université Paris-Cité. Et Laurie Loffert, vous allez sans doute pouvoir m'éclairer. Je me suis toujours demandé ce que voulait dire cette fameuse phrase de Lacan, celle de ce plus connu. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et oui, et en plus, la suite, c'est parce que ça n'est pas ça.
Oh, je suis encore plus embrouillée.
Et ben voilà, c'est ça. L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Bon, c'est pas mal, moi, je trouve, non ? Vous trouvez pas que c'est...
J'ai pas tout compris, moi, je pense.
Ben, c'est la définition de l'amour. On comprend jamais rien.
Ok.
Non, mais c'est un peu la définition de l'amour. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on ne sait pas très bien pourquoi on aime. Non ?
Bah, après, on cherche quand même des raisons, non ?
Ben, c'est peut-être pas la bonne voie.
Quoi. Ah, on devrait pas. Généralement, on cherche des raisons quand c'est fini.
Voilà, ben c'est ça. Eh ben, c'est quand on n'a pas.
Ah, ok. Donc, attendez.
C'est pas mal, non ?
Ouais. Donc, on a donné une fois que c'est trop tard, un truc comme ça.
Voilà, voilà.
Je pense que je vais passer la nuit là-dessus, moi. Je vais faire une insomnie, maintenant.
Non, mais c'est...
L'insomnie, il faut l'accepter. C'est un moment de travail.
Enfin, ça dépend ce que vous faites pendant l'insomnie. Comment ça, il faut l'accepter ?
Bah, je sais pas si on fait une insomnie. Moi, je cherche toujours, je me dis, si je fais une insomnie, est-ce que je prends un livre ? Est-ce que je vais regarder par la fenêtre ? Ou alors, on accepte l'insomnie et... Non ? Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, je vous
oui,
le dis tout de suite.
Alors,
hein. Franchement, je suis en train de faire de l'association libre.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est très bien. Mais si, voyez, si vous faites, si l'association, c'est
enfin, les auditeurs,
l'amour et
pas,
l'insomnie...
On la psychanalyse, donc on va peut-être passer à autre chose en même temps. Voilà. Parlons de Freud. Freud avait des préjugés sexistes. Et quand je vous lis, je comprends que c'était quand même aussi un allié des femmes et que les femmes l'ont beaucoup aidé.
Une des légendes de l'invention de la psychanalyse, c'est de dire que ce sont les femmes que Freud a écoutées qui ont inventé le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné... Freud, il écoute ses patientes qui ont des symptômes très invalidants hein, quand même. Et à un moment, il demande, mais expliquez-moi, pourquoi vous avez ces symptômes ? Qu'est-ce que vous avez fait hier ? Enfin, bon, bref, il essaie de trouver des raisons. Et à un moment, il y en a une qui lui dit, écoutez, arrêtez de parler, laissez-moi parler, parce que c'est moi qui sais. Et alors Freud, il consent, il met, d'ailleurs, il écrit, j'y consens. Elle a ouvert l'univers à Freud, quoi.
Ok. Et Freud, il dit que tout le monde est bisexuel. Donc, même Donald Trump, genre.
Alors, bon, Freud parle de bisexualité psychique.
Dans la tête ?
Dans la tête. C'est-à-dire que tout le monde, même celui dont vous avez parlé, là, a un peu de féminin et un peu de masculin. Alors, quand c'est parfois un peu conflictuel, ben, y a des surinvestissements, mais je ne vais pas commencer à faire ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire...
Oui. Oui, parce que j'allais vous demander, si vous aviez le choix d'allonger une femme ou un homme politique sur le divan, vous choisiriez qui et pourquoi Emmanuel Macron ?
Alors, quand je reçois quelqu'un et qu'il s'allonge sur le divan, je ne sais pas qui c'est. Après, ces personnes qui sont connues, elles sont peut-être un peu embarrassées par leur rôle social, leur fonction, etc. L'idée, c'est de défaire un peu ça aussi, puisque les rôles sont aussi un peu imaginaires, quoi.
Laurie Lefebvre, vous, comme vous êtes une mauvaise fille, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui faisait vos parents ? D'où vous venez ?
Oula, alors, de façon très simple, mes parents étaient commerçants. Ma mère a été un peu couturière et mon père a vendu des chaussures dans une boutique de chaussures. Alors, d'où ils viennent ?
Mais donc, vous venez d'un milieu qui est éloigné de la psychanalyse.
Il y a une blague, un mot d'esprit qui dit « Quelle est la différence ?» Alors moi, je suis nulle pour les blagues, parce qu'évidemment...
Oui, laissez faire les professionnels. Hein.
Mais oui, mais c'est pour ça, en plus, je suis très intimidée, donc... ça, j'ai retrouvé. Quelle est la différence entre un tailleur de vêtements, et un psychanalyste ?
Ah, je l'ai pas.
Une génération.
Ah bon ?
Ouais, mais c'est pas mal, non ?
Mais carrément ?
Ouais.
Mais donc ça...
Bah, c'est ça.
Ah ouais.
Mes parents étaient dans les tissus, dans le commerce, etc. Et puis je suis devenue psychanalyste. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai tricoté quoi, des choses.
Ça, c'est genré quand même, Laurie Lefebvre. Hein, pour une mauvaise fille, tricoter. N'arrêtez pas de dire tricoter, c'est marrant.
Oui, alors, vous savez pourquoi ?
Non.
J'ai attrapé ce mot-là parce que Anna Freud, la fille chérie de Sigmund, sa dernière, qui était psychanalyste, avait une passion... C'est qu'elle tricotait, et elle tricotait aussi en écoutant ses patients. Voilà. Ouais. Et toute la journée, elle était en train de tricoter. C'est rigolo, non ?
Oui, c'est assez marrant, j'ai l'image. Et donc, il y a un moment où vous poussez la porte pour la première fois d'un cabinet, et c'est alors, comme ça que vous y arrivez ? Parce que comment, de là où vous venez, vous arrivez à un moment à toucher à la psychanalyse ?
Alors, en fait, de façon très simple, comme probablement beaucoup de patients, il y a, j'ai autour de 25 ans et je suis très mal. Et donc j'ai effectivement, je suis allée voir une psychanalyste. Et j'ai rencontré un des grands amours de ma vie, la psychanalyse.
Ouais, c'est pour ça que vous êtes restée 18 ans. Parce que je me suis dit 18 ans chez
mais
la psy.
Mais comment vous savez 18 ans ?
Parce que vous l'avez dit quelque part à un moment.
Mais
je me suis dit, mais 18 ans, mais elle est nulle la psy.
Ouais.
Mais c'est pas ça.
Ah oui, je l'ai dit quelque part ça. Ah non, mais il faut arrêter de parler, en fait.
Donc voilà, oui, donc 18 ans, c'est-à-dire que vous êtes tombée en amour de...
Du travail que je faisais avec cette psy, voilà. Je peux dire
c'est
que...
C'est long, à la fin, c'est vous qui l'analysiez.
Non.
Non ?
Bon, même pas. Et du coup, pendant ces 18 ans, j'ai recommencé des études de psychologie.
Ok,
voilà.
D'accord. Et quand est-ce que vous avez su que c'était fini, l'analyse ? Votre analyse à vous ? Si c'est pas indiscret, hein.
Bah, c'est-à-dire que...
Après, vous l'avez peut-être déjà dit ailleurs, hein.
À quel moment j'ai su ? Bah, quand j'ai pensé que c'était la fin. Freud, il dit une chose assez intéressante.
Il s'en passe des choses dans la teuté de Freud, j'ai l'impression.
Enfin, surtout les textes. Dans la teuté, je sais pas, mais en tout cas dans ces textes auxquels j'ai eu accès.
Ouais,
mais
il dit quoi ?
Il dit, ce qui est à caution aussi, mais en tout cas, il dit, on arrête une analyse quand on arrive à aimer et travailler. C'est un indicateur.
Mais c'est affreux, parce que si on aime, on a envie de continuer. On se prive d'un plaisir.
De l'analyse ?
Ouais.
Ah, mais c'est peut-être le moment d'arrêter, justement. L'analyse, je veux dire. On continue d'aimer.
Ouais.
Vous savez, le truc, on donne ce qu'on n'a pas et
tout
le bazar.
Oui, on continue d'aimer, mais on arrête.
Voilà. Mais
c'est vraiment trop... Ça, c'est un bon argument. Écoute, c'est vraiment trop bien, il faut qu'on se sépare.
Non, mais je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aimer la personne qu'on aime. Il ne s'agit pas de quitter la personne qu'on aime. Il s'agit d'arrêter son analyse.
Oui, mais c'était une métaphore pour dire, oui, voilà, j'arrête parce que j'aime trop.
Ouais. Oui. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, après 18 ans, j'étais à un endroit où j'arrivais à commencer à faire ce que j'avais envie de faire et que j'aimais la personne que je voulais aimer.
Voilà. Et Freud, j'ai l'impression qu'il était un petit peu rigolo parce que... Il parle pas mal de l'humour, du rire, des jeux de mots, etc.
Oui, absolument.
Et donc, moi, je me demandais, est-ce qu'on peut rire pendant une séance d'analyse ?
Absolument, tout à fait.
Ah, bah, je me sens libérée, là, d'un coup. Je vais vous exposer quelque chose.
Oui, dites-moi.
J'ai eu l'occasion de faire de l'analyse, et j'osais pas du tout faire de blagues.
Vous alors n'osiez
que moi,
pas.
Mais moi, c'est ouais. Un way of life. Je ne mais fais oui. Que ça du matin au soir.
Bien sûr.
Et donc, c'était le seul espace dans ma vie où je n'ai jamais fait de blagues. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai intériorisé, et je pense avoir compris que quand je faisais une blague, bah, y avait une distorsion de réalité. C'est mon métier, c'est de distordre ouais, la ouais. Réalité, de distordre un peu les faits, de prendre de la distance avec les choses. Et donc, je me dis, il y a une insincérité et ça ne fait pas partie du travail d'analyse, quoi. Donc, je ne voulais pas faire de blagues. De toute façon, je pense que ma psy riait pas des masses. Donc, mais j'ai senti ça, que ce n'était pas un public.
Mais alors, c'était peut-être pour ça.
Ouais. Mais alors, d'où ma question. Ça ne biaise pas le travail de faire un peu de blagues?
Alors, je ne sais pas si la question, c'est de faire des blagues. Parce que, pardon, mais ce n'est pas à vous que je vais dire comment bah, ça si, se produit, mais, ouais. Mais en tout cas, dans une séance...
Nos auditeurs, ils ont envie de savoir.
Dans une séance... J'avais fait d'ailleurs une émission sur le rire.
Ouais. Peut-on rire pendant une séance d'analyse?
Exactement.
On peut écouter votre podcast pour avoir la réponse.
Voilà. En fait.
L'inconscient sur la plateforme Radio France.
Voilà. Absolument.
Vous écrivez que Freud et Lacan suggéraient aux psychanalystes de lire beaucoup de romans et de poésie. Il disait ce sont de précieux alliés, ils connaissent bien des choses, c'est-à-dire
Freud, avant de lire beaucoup les neurologues de son temps, etc., etc., il était un lecteur avide de la tragédie grecque. Bah, il nous a sorti Oedipe quand même, de Sophocle, hein. De Shakespeare, de la poésie. Enfin, c'était quelqu'un qui lisait énormément de littérature, de poésie. Et en fait, il considérait que comme les créateurs, les auteurs, les romanciers, les poètes, étaient moins peut-être inhibés et qu'ils se laissaient davantage aller à leur création, qu'ils pouvaient donner des éléments de, je mets des guillemets, de fonctionnement de la vie psychique. Que c'était une façon de... Et c'est pour ça qu'il dit que les romanciers, les poètes, etc., précèdent. Hein, c'est-à-dire qu'ils nous précèdent, en fait. Ils nous donnent des éléments de ce que c'est que le fonctionnement de la vie psychique, quoi. J'aime pas le mot fonctionnement, parce qu'on n'est pas... c'est pas des robots, mais en tout cas de la façon dont... dans ce vie la psyché, quoi.
Okay. On va s'arrêter là.
Merci Charline.
Merci Laurie Lofer.
Merci beaucoup.
J'aime tellement discuter avec vous et nos auditeurs vous écouter que je crois qu'il faut qu'on arrête là.
Allons-y. C'est à moi de lever la séance.
Oui.
Eh bien alors, je vous attends la semaine prochaine.
Je vous dois combien? Ainsi s'achève Bistroscopie. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, que vous avez entendu rire. Merci à Anaïs Reynard à la réalisation, à Clément Vuillet à la technique, Florian Dittre au mixage et Béatrice James à la documentation.